When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
What time is it now? Time is it now? Talk to that. Talk to that. What time is it now? What time is it now?
Got gun, Hulk left, Brock,
Dixie left, T left,
Mercedes, wide chip, Ricky,
Fever left, 75, Katie,
Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead, goal line, touchdown,
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 touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 355 du podcast Jeune Actu. On a été très heureux de vous retrouver pour le dernier épisode de notre preview draft 2020. À mes côtés, encore une fois, il y a Grégory Richard. Bonjour Grégory.
Salut Alain, bonjour messieurs.
En direct depuis la Suisse, Kevin Zermatten, bonjour.
Bonjour.
La dernière de nos émissions de draft, donc je le disais, on va se pencher sur le cas des defensive backs, à la fois les cornerbacks et les safety. Vous avez l'habitude du principe maintenant, les sept meilleurs joueurs, les énigmes et les bonnes affaires. On commence sans plus tarder avec le chapeau numéro 1, jingle, et c'est parti pour les meilleurs joueurs.
Hey, this is David Carr and you're listening to the Touchdown Podcast. Enjoy the show.
Les defensive backs ont commencé évidemment avec le premier chapeau, messieurs, qui est composé de Jeffrey Okuda, CJ Anderson et Xavier McInnes. Jeffrey Okuda, c'est donc le numéro 1 incontesté. Il fait 1m85 pour 91 kilos. Il était 6e du top 15 de Grégory. Kevin, est-ce que tu es d'accord avec le fait que c'est l'incontestable numéro 1 de cette QV de defensive back?
Oui, alors tout à fait. Je pense qu'il y a quand même un trou entre lui et les autres qui le suivent. Il est plus complet que par exemple un CJ Anderson qui est spécialisé dans la presse. Il y a quand même un bon écart. Après, je dirais il y a des joueurs justement qui sont plus spécialisés dans un secteur comme justement je parlais de CJ Anderson qui est vraiment le niveau presse c'est probablement le meilleur qu'on a cette draft.
Est-ce que tu peux rappeler la presse pour ceux qui
alors,
découvrent?
C'est quand le cornerback est proche du receveur et qu'il doit justement le bumper au départ de l'action pour déranger son tracé.
D'accord. Est-ce que tu lui vois des défauts évidents à Jeffrey Okuda?
Alors justement, c'est un peu ça. C'est qu'il n'a pas vraiment de défauts, disons. En tout cas, sur cette année 2019 à Ohio State, il a vraiment développé son côté en défense de zone qui n'était pas forcément son point fort avant et il l'a amélioré assez drastiquement. Donc, ça fait un des derniers points faibles de son profil, c'est amélioré cette dernière saison.
Est-ce que tu es d'accord avec la comparaison avec Jalen Ramsey?
Oui, il y a un peu de ça. Après, il n'y a pas le caractère qui va avec. Enfin, je n'ai pas l'impression. Donc, ça pourrait être... Mais je pense que c'est clairement un cornerback numéro 1 en NFL.
Bon, Grégory, je ne suis pas beaucoup venu vers toi pour l'instant parce que tu en avais beaucoup parlé dans le top 15. Tu maintiens tout ce que tu as dit. C'est toujours l'incontestable numéro 1. Il est sélectionné à quel niveau?
Il sera top 10, sûr.
Après, c'est toujours les dernières questions sur les cornerbacks, c'est de savoir exactement si ça peut valoir un investissement dans le top 5. Mine de rien, les joueurs qui sont sélectionnés sur ce spot-là, c'est quand même pas légion. On a parlé de Jalen Ramsey. Si on prend des exemples plus ou moins récents, il y a eu aussi Denzel Ward, un autre ancien d'Ohio State, ou encore Patrick Peterson. Mais il faut vraiment se démarquer ou il faut être dans une classe où forcément on est vraiment au-dessus du lot. C'est le cas d'Okuda. Alors juste pour rebondir sur ce que disait Kevin, point faible, je dirais quand même les mains, je trouve en tout cas. Il a 3 interceptions cette année, bon, dont une un petit peu chanceuse, mais je pense qu'il y a une marge de progression à ce niveau-là. Et c'est vrai que sur la comparaison avec Jalen Ramsey, qui lui aussi en sortie de Florida State avait des petits problèmes au niveau des mains, la différence avec Ramsey, c'est que Ramsey avait été un petit peu baladé sur le backfield, ce qui n'est pas forcément le cas d'Okuda, même si Okuda, je pense, a un petit peu moins d'expérience que pour en avoir Ramsey. C'est vrai que c'est quand même d'Ohio State qui sont un peu, qui mine de rien ont quoi, 1 an, 2 ans maximum d'expérience, mais qui vraiment explosent de manière assez impressionnante. C'est le cas d'Okuda. Donc il y a une marge de progression, mais oui, pour répondre à ta question, ouais, je te dirais oui, top 10 sûr, top 5 si vraiment une équipe est amoureuse.
CJ Anderson est le numéro 2, il fait 1m85 pour 91 kg, il arrive de la fac de Florida. Il était coureur au lycée, il est passé cornerback après avoir connu beaucoup de blessures. Pourtant, on n'a pas l'air de retrouver le côté physique dans le jeu. Il est plutôt frêle, grand bras, pas un pro du plaquage, si j'ai bien compris, Grégory.
Oui, c'est ça. Alors, on a presque l'impression qu'il est petit sur les vidéos, mais c'est vrai qu'il a un côté très longiligne, très frêle, qui lui permet d'avoir justement cette fluidité, on dira, dans les mouvements. Pardon, cette rapidité malgré tout. Il a quand même du coffre. Après, c'est sûr que lui, pour le coup, on sent qu'il y a des choses où, alors il y a des petites sautes de concentration. C'est vrai qu'il y a des petites erreurs de main un peu inhabituelles, alors que on avait tendance à pas forcément les voir, notamment dans ses premières années à Florida. Et c'est vrai qu'on peut se poser légitimement la question de savoir si contre des receveurs avec un peu plus de coffre, il aura la possibilité d'avoir vraiment du répondant sur tout un match. Honnêtement, c'est pas ce qui me fait peur. C'est vrai que voilà, ça fait partie de ces joueurs du côté de Florida où il y avait un backfield très fourni, où il a pas forcément pu autant jouer que d'autres cornerbacks à mon sens. Après, bon voilà, c'est honnêtement, il sera peut-être plus armé pour de la couverture en zone de par justement ses qualités de vitesse, donc couverture en zone, donc vraiment couvrir un secteur en particulier et pas être constamment au duel avec un receveur. Mais voilà, je pense qu'il sera un peu plus doué, mais comme Okuda, il a quand même une aptitude, je pense, à pouvoir être sollicité sur n'importe quel type de couverture.
Kevin, est-ce que c'est un titulaire rapidement en NFL, CJ Anderson?
Je pense que oui. La seule chose qui me fait un peu peur avec lui, c'est justement sa qualité de plaquage. Disons que c'est pas qu'il ne sait pas plaquer, c'est qu'il ne veut pas toujours plaquer. J'ai l'impression que des fois, il laisse un peu passer le joueur parce qu'il se dit bah, c'est pas trop grave. Je sais pas, il a une attitude désinvolte un peu. Et j'ai écouté un podcast américain, il parlait de faire des business decisions. C'était un peu ça. Genre, il ne voulait pas prendre un gros coup d'un running back ou autre chose. C'est un peu l'impression qu'il donne. Après, est-ce que c'est ce qu'il faisait? Je ne sais pas vraiment.
Il a des bonnes mains quand même, on est d'accord, au niveau des interceptions.
Oui, oui, tout à fait.
Sur le papier, en tout cas, il en a des bonnes. Après, c'est vrai que d'un point de vue production, il a quand même, je trouve, régressé en 2019.
Oui, parce qu'il n'a pas d'interception, hein, si je ne dis pas de bêtises, en 2019. C'est ça, il est passé à 4 interceptions en 2017, 2 en 2018, 0 en 2019. C'est ça. Donc, il y a eu un déclin à ce niveau-là. Quel niveau de la draft vous le voyez sélectionné?
Ah, je sais pas pour toi, Kevin, mais ouais, moi je pense qu'il est aux portes du top 15 facilement.
Ah oui, quand même.
Oui.
Ouais, je dirais peut-être un petit peu plus bas, top 20, mais pas tellement au moins.
Oui, donc on est toujours dans du quasiment haut du premier tour, hein. dans les deux premiers tiers du premier tour en tout cas. Donc un très bon profil. On passe à Xavier McKinney, le premier safety de cette émission, 1m85, 91 kg, exactement les mêmes mensurations que le joueur précédent. Il vient d'Alabama. Encore un safety d'Alabama, messieurs. En général, c'est plutôt bon signe. Il se situe où par rapport au Minka Fitzpatrick et autres Landon Collins qui sont sortis ces dernières années, Kevin?
C'est peut-être un peu, je dirais peut-être entre les deux, je ne sais pas exactement, parce que ce n'est pas un joueur qui va pouvoir jouer comme unique safety. Je ne pense pas, il semble pas avoir la vitesse pour ça, même si ce n'est pas particulièrement un joueur lent. Je pense qu'il sera plus idéal pour un apport contre la course. C'est un bon plaqueur, en fait, donc il pourra venir dans la boîte. Il est assez polyvalent, en fait. On peut aussi le faire couvrir, mais il sera plus à l'aise avec un autre safety avec lui.
Grégory, plutôt complet, alors.
Ouais, plutôt complet. C'est vrai qu'il a beaucoup de similitudes qui se rapprochent, en effet, de Minkah Fitzpatrick. Enfin, le côté un petit peu box safety, malgré un gabarit qui n'est pas non plus hyper impressionnant en soi. Après, c'est vrai que... Honnêtement, j'aurais pu mettre dans les énigmes. Après, c'est vrai que c'est un premier tour quasi à coup sûr. Mais c'est vrai que je trouve qu'il a un profil qui ressemble beaucoup à celui de Jimmy Ward, le defensive back des Niners. C'est-à-dire qu'il peut faire énormément de choses. Il peut être un titulaire intéressant. Mais la question, c'est vraiment de savoir si à l'échelon supérieur, ce sera un game changer et un joueur qui sera vraiment capable d'être indéboulonnable sur sa position, quoi, d'être vraiment excellent dans un domaine. Mais voilà, en tout cas, dans la NFL actuelle où on demande aux défenseurs d'être ultra polyvalents, de pouvoir vraiment brouiller les pistes de l'attaque adverse, ça va être un joueur assez intéressant à voir. Et je rejoins globalement Kevin, c'est sûr que je le vois un peu plus à l'aise dans la boîte qu'on dira sur la couverture, sur du jeu un peu plus profond. Mais voilà, ça reste un DB d'Alabama qui, honnêtement, est extrêmement volontaire. Donc, je ne me fais pas trop de soucis là-dessus.
L'année dernière, 95 plaquages, dont 5,5 pour perdre, 3 sacs et 3 interceptions. Donc, c'est plutôt en effet complet. Il a aussi forcé 4 fumbles. Il fait pas mal de choses. Premier tour assuré, alors.
Je pense, oui. En tout cas, ça se joue beaucoup avec un autre DB dont on va parler tout à l'heure, un joueur de LSU. Visiblement, c'est quand même lui qui a l'air d'avoir, justement, de par ce côté, je pense, plus polyvalence, les faveurs des équipes NFL dans l'optique d'un premier tour sur un safety. Ouais.
Kevin, premier tour aussi.
Oui, tout à fait. Je pense que, comment dire, il a très peu de chances de passer au deuxième tour. Justement, il parlait d'un safety de LSU qui a plus de questions sur son jeu que McKinney.
Le chapeau 2, on va commencer. Alors, je vais vous donner tout le chapeau tout de suite. C'est Christian Fulton, Jeff Gladney, Trevon Diggs et Jalen Johnson. Est-ce qu'il y a un gros écart entre, c'est la question habituelle, entre le chapeau 2 et le chapeau 1? Grégory, tu les as fait.
Alors, ça, c'est une excellente question. j'avoue que. À force de revoir des vidéos, de me faire un avis sur les différents prospects, je pense que Fulton est quand même bien au-dessus des trois autres. Il me semblait qu'il y avait un écart un peu plus serré entre Fulton et Gladney. Je trouve que ça a tendance quand même à se détacher. Je te dirais le premier bien devant, le deuxième bien au milieu et les deux autres en dessous.
Alors, Christian Fulton, c'est le premier dont on va parler. Il fait 1m83 pour 91 kg, cornerback avec LSU, encore un champion en titre. Alors, apparemment, c'est un pot de colle sur le receveur adverse. C'est très difficile de lui échapper. Grégory, je te vois hocher la tête.
Ouais, tout à fait. Alors, c'est aussi, il y a beaucoup de cornerback, mine de rien, qui sont arrivés un peu sur le tard, ou en tout cas qui se sont révélés sur leur position sur le tard. Christian Fulton, ça joue un peu contre lui, je pense, dans cette optique draft. Il a perdu un petit peu de temps en universitaire en raison d'une suspension d'un an, pour avoir triché, il me semble, un test anti-drogue. Donc, du coup, voilà, il est arrivé seulement en 2018. Et on va dire, alors, l'avantage qu'il a eu, c'est qu'il a souvent été plus ou moins cornerback numéro 2 à LSU. Parce que donc en 2018 c'était Grady Williams qui était le cornerback en chef, et l'année dernière c'était la petite sensation de Louisiana State, Derek Stingley, qui était plutôt le corner numéro 1, même si Fulton avait plus de responsabilités. Donc c'est vrai que ça a peut-être un petit peu plus facilité son rôle. Après, si on prend les qualités intrinsèques, c'est un excellent technicien avec d'énormes qualités athlétiques, ce besoin d'avoir l'initiative sur le premier contact, mais comme tu le disais, des aptitudes qui lui permettent d'être extrêmement collante, d'avoir toujours une certaine réactivité, une fluidité de mouvement qui lui permet en effet, peu importe le tracé du receveur, d'être suffisamment réactif pour au moins gêner son adversaire direct.
Le point faible, c'est le jeu au sol, Kevin.
Oui, il y a pas mal de corners dans cette classe qui sont pas des très bons plaqueurs, mais c'est vrai que oui, il y a une amélioration à faire de ce côté-là. Après, c'est vrai que c'est un joueur quand même relativement complet pour le poste de cornerback. Il est bon en man, bon en homme à homme et en zone. Il a une bonne vision du jeu, je trouve. Il anticipe bien. Donc, c'est aussi pour moi une potentielle fin de premier tour et un deuxième tour.
Il a été suspendu en 2017, tu le disais, Grégory, pour avoir trifouillé un test anti-drogue. Il n'était pas positif, mais c'est du tempering. Alors, je ne saurais pas comment le traduire officiellement, mais voilà. Bon, au moins, a priori, il ne devrait plus trop avoir ce problème, parce qu'avec le nouveau CBA en NFL, ils vont être plus lax sur la marijuana. Donc, c'est plus un problème comme avant. Bon. Fin de premier tour aussi pour toi, Greg?
Mais je le vois quand même se rapprocher du top 20, top 25. Je serais pas étonné. Bon, on n'est pas dans le début du premier tour, hein, mais je pense qu'il y a une petite cote quand même qui va monter. C'est vrai qu'il y a ce fameux fantasme du physique, hein, pour les cornerbacks, et Fulton a été un petit peu décrié dans ce domaine-là. Je crois d'ailleurs qu'il a esquivé plus ou moins volontairement le développé couché lors de l'exercice Indianapolis. Mais franchement, il a largement les compétences athlétiques. Les cornerbacks de LSU, ça continue de faire fantasmer un peu.
On enchaîne avec Jeffrey Gladney, cornerback de TCU, 1m83 pour 83 kg. Il est âgé de 23 ans. Et là encore, c'est pot de colle en homme, si j'ai bien compris.
Tu veux que je fasse, ou Kevin ?
Allez, Kevin, allez.
Vas-y.
Oui, alors c'est exactement ça. Je trouve que c'est un cornerback très agressif. Après, agressif dans le bon sens du terme, hein, qui est... Ouais, c'est exactement ça, c'est un pot de colle. Après, c'est probablement un meilleur plaqueur, je trouve, que les deux qu'on a cités avant. Mais je pense qu'en NFL, il aura peut-être plus de succès à jouer off-man, donc un peu plus loin du receveur, parce qu'il a vraiment d'excellentes qualités de réaction. Et justement, pour couper des tracés, pour vraiment être un peu dans l'ombre et puis surprendre le quarterback adverse.
Grégory, physiquement, c'est un peu court ou pas, 1m83, 83 kg? Je sais que c'est bizarre de dire ça à chaque fois, mais il est plus léger.
Ouais, il est plus léger. Après, il a quand même un... Non, il a en effet ce côté un peu compact. Il faut savoir que c'est un ancien basketteur, un ancien sprinter, il me semble. Donc, c'est-à-dire qu'il a quand même réussi au cours de son cursus à avoir ce petit mélange de vitesse et de répondant quand même au duel. Donc voilà, c'est pas forcément le gabarit le plus intimidant, mais encore une fois, c'est celui qui va pas avoir froid aux yeux, c'est celui qui va pas hésiter à apporter le soutien sur le run support, c'est celui qui va pas hésiter encore une fois à se fricoter un peu. L'expression est un peu maladroite, mais en tout cas, oui, aller tester un petit peu le receveur adverse. Il a un usage un petit peu irrégulier des mains, je trouve. Et pour rejoindre ce que je disais, Kevin, c'est vrai que c'est un peu ces corners où, en effet, c'est mieux qu'ils aient le jeu devant eux, dans le sens où je trouve quand même que Gladney a un peu de difficulté en termes de réactivité. Je le trouve pas impressionnant sur, en tout cas, je trouve pas en mesure de s'adapter sur n'importe quel type de tracé. Mais non, pour répondre à ta question, sa taille m'inquiète pas forcément plus que ça pour réussir au plus haut niveau.
On est toujours au premier tour ou pas ?
On va faire un premier tour maximum début deuxième. Je serais étonné qu'il descende plus bas.
Kevin, toujours premier tour ?
Ouais, pareil. Fin de premier tour, début deuxième.
Ça va être encore riche en premier tour. J'ai l'impression qu'on n'a que des joueurs de premier tour depuis qu'on fait ces podcasts. Bon, il va y avoir 50 joueurs au premier tour. Trevon Diggs, cornerback d'Alabama, 1m88, 94 kg. Alors là, pour le coup, c'est costaud. C'est le contraire. Là. C'est costaud bon en zone, si je ne me trompe pas, Grégory.
Alors, je parlais des cornerbacks qui sont arrivés sur le tard. Trevon Diggs, donc frère de Stéphane, néo receveur des Buffalo Bills, qui au départ était un ancien receveur. Et qui du coup a plutôt servi à dépanner en défense, hein, du côté d'Alabama. Valait mieux, hein, vu ce qui arrive au poste de receveur du côté du Crimson Tide. On en a parlé sur des précédents podcasts. Donc c'est vrai que lui, pour le coup, il a des attributs physiques hors pair, c'est-à-dire qu'il est globalement rapide. C'est pas sa force première, mais il est globalement rapide. Et il est extrêmement physique, ce qui fait pas mal fantasmer encore une fois les scouts dans l'optique de la NFL moderne. Maintenant, c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même un certain déficit de technique. En termes de fluidité, c'est quand même pas parfait. Du déchet au plaquage également, pour un joueur qui est censé être physique et qui peut éventuellement porter sur le jeu au sol, c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que c'est encore difficile de l'imaginer concrètement sur des grands espaces, on va dire. Et du coup, ça pose la question de ce potentiel numéro 1. Après, pour répondre à ta question, je suis pas sûr que je le verrais précisément dans un type de système, un type de couverture. Après, on sait que voilà, dans la NFL actuelle, on voit un petit peu tout, mais Diggs, peut-être oui, peut-être plus en zone, mais encore une fois, il faudra quand même je pense qu'il va quand même avoir besoin d'apprendre dans un premier temps, et qu'un rôle de nickel au départ, ce serait pas forcément une mauvaise chose.
Kevin, c'est un projet en fait, Trevon Diggs ?
Oui, il y a un peu de ça. Bon, ça s'explique par le fait aussi qu'il a fait la conversion au poste de cornerback assez tard. Il y a une chose que, enfin, je voulais mettre en avant avec lui, c'est il a eu par exemple tout le monde lui tombe dessus pour son match contre LSU, qui était absolument horrible, on est tous d'accord, mais ça montre pas totalement. Si les gens regardent justement les highlights de ce match-là pour voir les erreurs qu'il a fait, c'est quand même pas un très bon échantillon parce qu'il a fait beaucoup mieux les choses sur le reste de la saison. Après, c'est clair que je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Greg, que c'est pas un bon plaqueur, c'est clair. Il va falloir rapidement changer ça s'il veut pas être mis sur le banc en NFL. Mais oui, je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit Greg.
Juste pour compléter, par rapport à ce que disait Kevin, je rejoins par rapport à Trevon Diggs. L'échantillon qu'on voit sur LSU, c'est pas forcément une garantie. Je parlais de Fulton tout à l'heure. Si on prend son match contre Alabama, franchement, on va avoir des maux de tête. Mais c'est contre les receveurs d'Alabama où il a été beaucoup, beaucoup exposé sur le match. Après, sur le reste de la saison, c'est quand même un peu plus rassurant ce qu'on en a vu.
Toujours au premier tour ?
Milieu deuxième pour moi.
On commence à descendre.
Ouais.
Kevin, milieu deuxième aussi ?
Ouais, même deuxième partie de deuxième tour.
Ok, donc là il y a un vrai gap en effet à partir de Trevon Diggs. Donc il y avait que du premier tour jusqu'à Trevon Diggs. Et là il commence à y avoir un écart. Jalen Johnson arrive de Utah, 1m83, 88 kilos. Alors j'ai vu passer une interview où il parlait carrément de Jalen Johnson Island, où il disait couvrir le meilleur receveur c'est mon job. Voilà. Donc est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il est prétentieux, Kevin ? De toute façon vous hochez tous les deux la tête là.
Bon, c'est clair que c'est. Tout d'abord, c'est un trash talker, donc clairement, il est confiant en ses aptitudes physiques. D'ailleurs, probablement un petit peu trop des fois, parce qu'il veut plutôt typiquement faire un gros contact plutôt que favoriser la technique, et puis en pensant que ça va suffire, et puis souvent ça suffit pas, et ça va certainement pas suffire en NFL. Après, c'est clair qu'il a un gabarit excellent pour le poste, il est agressif, il a un bon apport sur le jeu de course. Malgré tout, parce qu'il aime aller dans le tas. Maintenant, il faudra peut-être justement utiliser ses bras pour plaquer. Mais ce que j'ai trouvé avec lui, c'est qu'il n'est pas très à l'aise dos au jeu. Donc, quand le ballon est dans les airs, pas forcément qu'il panique, mais il accroche un peu le receveur et il prend des pénalités.
Grégory, alors, il est physique, mais est-ce qu'il a l'intelligence et la vitesse pour la NFL, quoi ?
Ouais, c'est un peu ça. Après, si tu... Alors, moi, la comparaison, si je te fais un résumé rapidement, ouais, je te dirais qu'il a une très bonne vision du jeu. Qu'en effet, il a les qualités dont parlait Kevin. Après, c'est vrai qu'il est très instinctif, un peu trop, et ça peut avoir tendance à lui jouer des tours où il va avoir, où il peut faire un, sur deux actions de suite, il peut faire un excellent jeu avec un super sens de l'anticipation, et puis derrière se casser carrément la tronche en essayant de courir sur un receveur qu'il le feinte sur un tracé. Donc c'est vrai que c'est un joueur pour le coup. Si je faisais la comparaison avec Trevon Diggs, je pense qu'il est quand même un peu plus coachable. Et là, pour le coup, je suis pas un grand fan du joueur de par le côté trash talk, mais ça, c'est mon avis perso. Après, je trouve que...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En l'occurrence, c'est un projet qui a quand même un potentiel, je trouve, de cornerback numéro 1 s'il tombe dans le bon environnement et s'il a un coaching staff qui sait plus ou moins le contenir. Et qui retire ce côté un petit peu foufou qui va un petit peu avoir, ce côté j'en fais trop parce que je veux montrer que je suis le meilleur. Après, voilà, il y a des attributs. Je pense qu'il est un peu plus, de par ce que disait Kevin, je pense qu'il est un peu plus adapté pour de la couverture en man, en tout cas massivement, enfin du duel en homme à homme, de par ce côté, voilà, de par cette volonté d'être sur le premier contact et de vouloir se faire respecter absolument. Mais ça va pas se faire du jour au lendemain, mais encore une fois, il y a quand même un beau, beau potentiel, je trouve.
À quel niveau de la draft tu sélectionnes ce potentiel ?
Je pense qu'on est quand même aux alentours du milieu deuxième aussi.
Kevin ?
Moi, je l'ai aussi plutôt fin deuxième, début du troisième, mais comme c'est une position qui est assez recherchée, plutôt milieu deuxième aussi, mieux fin deuxième.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
On continue de dérouler les defensive backs qui vont animer la draft NFL à venir avec Kevin Zarmaten et Grégory Richard. Messieurs, on passe aux énigmes. Il y en a deux, encore une fois. Kendall Pitt est le premier safety en provenance de LSU. Il fait 1m91 pour 92 kilos, élu meilleur defensive back du pays en 2019. Donc, pourquoi c'est une énigme s'il a reçu ce trophée très prestigieux, Grégory?
Ouais, on va dire que je suis pas toujours d'accord avec toutes les récompenses qui sont données au niveau universitaire. Après, c'est pas dire que Kendall Pitt a fait une mauvaise saison. Je l'ai mis à titre personnel dans les énigmes parce que c'est vrai que Kendall Pitt, c'est un gros point d'interrogation. Il y a de nombreux paradoxes et la principale question qui a se posé concernant ce prospect-là, c'est quel plafond, on va dire, quelle est sa marge de progression ultime, est-ce qu'il l'a pas déjà atteinte? C'est un joueur qui a été excellent en 2018, qui s'est révélé avec énormément d'interceptions. Enfin, c'était le meilleur défenseur pratiquement de LSU. J'ai plus tous les joueurs en tête, mais enfin voilà, avec Devin White éventuellement. Mais c'est vraiment celui qui a crevé l'écran du côté de Bâton Rouge. Et il a quand même été beaucoup plus quelconque en 2019 dans une équipe qui était paradoxalement championne nationale, donc qui crevait vraiment l'écran. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu ombre et lumière. Il va être excellent sur la couverture. Bon physique, rapidité, intelligence, réactivité, notamment pour aider ses corners. Mais c'est vrai qu'il y a cette délicatesse également sur le plaquage, où ça revient quand même assez souvent. Il a progressé, je trouve, dans ce domaine-là l'année passée. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cet excès d'agressivité au lieu d'assurer et des angles qui, je trouve, sont pas toujours excellents. Donc après, il y a la question de savoir, ça peut être un excellent free safety à l'échelon supérieur. Maintenant, est-ce qu'il peut gommer ses trous d'air pour être vraiment une force majeure dans une équipe? C'est la principale question selon moi.
Je rappelle les stats, 65 plaquages, 2 sacs, 2 interceptions, 7 passes déviées, un fumble recouvert, un fumble forcé de la saison dernière. Donc, il a quand même l'air d'avoir tous les outils pour être un safety moderne en NFL. Mais donc, toi, c'est le plafond qui t'inquiète, Grégory. Kevin, c'est quoi son plafond pour toi?
C'est assez difficile à dire, en fait, mais ce qui m'intéresse avec lui, c'est qu'il a eu, comme il disait Grégory, une meilleure saison au plaquage cette dernière saison, en 2019. Ça me rappelle, par exemple, Chauncey Gardner-Johnson, l'année passée, qui sortait de Florida, qui avait eu aussi une seule bonne saison au plaquage, qui n'était pas un très bon plaqueur avant. Et puis finalement, il est quand même tombé au quatrième tour, si je me trompe pas. Et je vois un petit peu ça avec Kendall Pitt, que les équipes vont avoir peur de le sélectionner haut, mais il a quand même un gros potentiel, et s'il fait les choses bien, il a l'occasion d'être justement un titulaire solide en NFL.
Alors, la question pour les énigmes, c'est toujours celle-là. Est-ce que vous y croyez et à quel niveau vous le sélectionnez? Kevin, est-ce que tu y crois et quand tu le sélectionnes?
Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Je l'ai plus aimé, évidemment, en 2018 qu'en 2019. Moi, si je devais le sélectionner, ce serait plutôt au deuxième tour, peut-être en milieu de deuxième tour, pour pas avoir trop de pertes de valeur, si on veut bien. Et puis, voir si on peut changer un petit peu quelques mauvaises habitudes.
Grégory, est-ce que tu y crois?
J'ai quand même tendance à y croire. On est de moins en moins dans cette confrérie. Et c'est vrai que j'ai quand même tendance à préférer son profil à celui de McKinney. J'en parlais tout à l'heure. C'est vrai que, à la limite, je me dis que c'est quand même mieux d'avoir un joueur qui est excellent dans un domaine, même s'il doit quand même se perfectionner sur d'autres, plutôt qu'un joueur qui est bon partout, mais qui ne met pas encore en extase, on dira, sur tous les postes. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à y croire. Après, voilà. Pour moi, ce sera quand même plutôt une fin de premier tour. On sait qu'il y a beaucoup d'équipes avec plusieurs pics au premier tour, donc peut-être pas forcément la star du premier tour, mais peut-être un deuxième ou troisième choix en fonction des équipes qu'ils sélectionnent. On sait que les Dolphins ont des besoins de free safety, par exemple. Ça peut être tentant pour eux sans que ce soit forcément la star de la classe. Mais bon, on parle quand même d'un joueur qui était pressenti comme étant un top 10 en début de saison universitaire. Donc, ça montre que, mine de rien, il y a beaucoup de points d'interrogation à son sujet. Et le voir draft au deuxième tour sera tout sauf une surprise selon moi.
Antoine Winfield et l'autre énigme, safety, qui sort de Minnesota, 1m78 pour 93 kilos. Donc là, c'est très, très compact. Le fils de l'ancien cornerback des Vikings, Antoine Winfield. Gros cogneur, mais pas seulement. Instinctif, playmaker, bonne main. Est-ce que le problème, finalement, c'est le trop gros nombre de blessures?
Alors, je vais commencer, si tu me permets, parce que du coup, c'est moi qui le mets dans les énigmes. Donc, ça me permet juste de calibrer un peu. En effet, il est très complet. C'est vrai qu'il y a la problématique des blessures. Là aussi, on parle d'un joueur qui a peut-être quoi, une vraie année complète de foot. Et ça, c'est quand même un petit peu compliqué, surtout pour un joueur qui est relativement hybride, comme il a pu l'être du côté de Minnesota. Il est principalement pressenti pour un poste de free safety, sachant qu'il a quand même un petit paquet d'interceptions à son actif. Maintenant, il peut apporter également le soutien dans la boîte. Hein. C'est pas incompatible, mais c'est vrai que tu parlais de ses instincts. Ça peut avoir tendance à lui jouer des tours. Et je suis pas un fan du fait de cocher des cases, mais c'est vrai que forcément sur la position, sa taille peut inquiéter. Alors c'est vrai qu'il y a quelques jurisprudents, je pense à un Buda Baker par exemple, Arizona, qui fait parfaitement le boulot même s'il n'est pas immense. Antoine Wilfing, il y a quand même cette inquiétude quand on sait qu'il va sans doute être amené à couvrir régulièrement sur des tight ends ou ce genre de choses. Voilà, c'est également une énigme qui fait que bah, malgré l'énorme talent qu'il a, l'état de santé, la longévité relative en universitaire, plus justement cette petite taille, on va dire, qui pose une interrogation sur son meilleur positionnement. Parce que je parlais de Buda Baker, mais Buda Baker joue plutôt strong safety aux dernières nouvelles. Voilà. Est-ce qu'il a vraiment le potentiel pour être un free safety efficace en NFL? Est-ce qu'on peut vraiment espérer avoir un joueur qui va être efficace sur le long terme? C'est la principale interrogation avec Antoine Winfield Jr.
Est-ce que tu y crois, Kevin?
J'ai envie d'y croire, on va dire, plutôt. Parce que c'est vraiment un joueur qui a crevé l'écran en 2019. C'est clair qu'il va falloir qu'il reste en bonne santé, mais ça, c'est pas toujours facile en NFL. Ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il a été très clutch du côté de Minnesota. Il a fait des interceptions en toute fin de match à plusieurs reprises pour clore la décision, on va dire, du côté de Minnesota. Et puis, ouais, c'est vraiment un joueur qui a toutes les qualités, si on veut, pour jouer en NFL, mais justement, il y a ce côté blessure et ce côté petite taille qui pose problème. Donc, c'est un peu des choses qui sont indépendantes de lui. Mais il a l'air d'avoir en tout cas le niveau, la vision et tout ça pour être un très bon safety.
Il a en effet qu'une saison complète, entre guillemets, qui est celle de 2019, où il a joué 12 matchs. Il avait joué 4 matchs en 2018, 4 matchs en 2017. Donc, il a joué 12 matchs en 2019 pour 83 plaquages, 7 interceptions, dont un touchdown et une passe déviée de fumble forcé. Il a aussi 3 sacks. Donc, en effet, il a fait une très belle saison. À quel niveau de la draft vous le sélectionnez? Vous pensez qu'il va être sélectionné?
Je pense que d'un point de vue blessure, ce sera un début de deuxième tour.
Ah oui, donc ça fait déjà haut quand même.
Oui.
Ouais. Début deuxième pour toi aussi, Kevin?
Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Bon.
Les bonnes affaires, on va commencer avec celle de Grégory. Une bonne affaire chacun. Tu as choisi Dane Jackson, qui vient de la fac de Pittsburgh, 1m83 pour 86 kilos. C'est un cornerback. Alors, laisse-moi deviner, tu aimes l'expérience parce qu'il a 41 titularisations et que c'est un joueur ultra compétitif, pas un phénomène physique, mais un joueur qui n'en veut.
C'est ça. Oui, bah, c'est bien d'avoir des petits joueurs expérimentés.
T'as vu, je te connais bien maintenant.
Bah, n'est-ce pas? Surtout que Pittsburgh, honnêtement, c'est pas la plus grosse fac de college football. Après, défensivement, il y a quand même des bonnes choses, je trouve, ces dernières années. Voilà, il va y avoir des prospects assez sympas qui vont en sortir. Et Dane Jackson, c'était pas celui qui impressionne le plus, on dira, les observateurs. Mais c'est vrai qu'il a la taille, la réactivité, l'intensité pour devenir un leader défensif, en tout cas c'est ce qu'il a montré du côté de la Pennsylvanie. Il est un peu décrié en effet pour un léger déficit de vitesse et surtout de physique, mais ça j'ai pas dans l'idée que c'est pas, je pense que ça peut être rectifié en NFL, enfin, en tout cas je pense que c'est pas aussi problématique que ce qu'on peut avancer. Ça se voit un petit peu plus parce que dans la CC, bon, faut être un petit peu plus complet, on dira. Et bon, c'est vrai que Dane Jackson a peut-être posé un petit peu plus de questions d'un point de vue physique, surtout quand on sait qu'il jouait quand même pas mal dessus du côté de Pitt. Voilà, mais c'est un joueur qui doit avant tout maîtriser son enthousiasme. Un petit peu trop de pénalités concédées, je trouve, notamment en 2019. Mais ça reste un beau projet, notamment dans une défense qui va évoluer massivement en couverture de zone.
Tu disais, c'est une fac qui a sorti quelques bons prospects défensifs ces dernières années. Il y a quand même Aaron Donald, hein. C'est pas le même poste, mais.
Oui. Bon, après, si on remonte un peu plus loin, là, je pensais plutôt à ces dernières années vraiment, mais il y a un Darrell Revis qui sort de Pittsburgh quand même.
En plus. Voilà. Est-ce que ce serait une bonne affaire pour toi aussi, Dan Jackson? Est-ce que tu es d'accord, Kevin, avec la bonne affaire de Gregory?
Oui, c'est aussi un joueur que j'aimais bien. Je dois dire que j'aime bien son apport sur la course, par exemple. Je trouve que c'est un gars qui plaque relativement bien, contrairement à ce qu'on a dit de pas mal de joueurs du premier tour même. Mais donc, ça peut être justement un peu une assurance tout risque, disons, si ça passe le deuxième rideau. Je l'ai bien aimé en blitz aussi. J'ai vu qu'il a, il a aussi une bonne vision pour ça. Il arrive à bien plaquer le quarterback s'il y a besoin. Il a réussi à plusieurs reprises. Il aura un apport sur les équipes spéciales, je pense. Pas comme retourneur, hein, mais il pourrait peut-être justement commencer sa carrière là. Et puis, ouais, sinon, les défauts, Greg les a déjà un peu expliqués.
Grégory, c'est ta bonne affaire. À quel niveau ce serait une bonne affaire?
Quatrième, cinquième, je pense.
Oui, c'est pas mal. Quatrième, cinquième tour donc pour Dane Jackson. La bonne affaire de Kevin, c'est Amik Robertson, 1m75, 83 kg, petit cornerback pour le slot, mais est-ce qu'il n'est pas trop limité physiquement alors, Kevin?
Bon, alors premièrement, moi, c'est un joueur, je ne suis pas vraiment fan d'évaluer un joueur sur vraiment la première impression. J'aime bien regarder assez longtemps ce qu'il fait et bien évaluer son profil. Mais c'est vrai que même s'il est petit, quand j'ai regardé la première fois ses highlights, c'est vraiment un mec qui m'a fait ouvrir grand les yeux et me dire « Ouh là, il est vraiment beaucoup plus fort que ce qu'il a comme opposition. Il a l'air de vraiment dominer. » Et puis, on voit ça, il a une grosse production du côté de la Louisiane. Et puis, comment dire ça, je trouve qu'il est très bon dos au jeu. Donc ça peut être justement quand il pourrait être un nickel corner par exemple. Je suis pas sûr que c'est la finalité de sa carrière en NFL, mais parce qu'on a vu des Brent Grimes, des joueurs assez petits qui étaient capables de jouer à l'extérieur. Donc pourquoi pas? Je sais pas encore, l'avenir nous le dira. Mais c'est un joueur agressif aussi, des fois un petit peu trop. Ça a l'air d'être un terme un peu récurrent dans cette classe de cornerback et de safety. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui a crevé l'écran et puis qui justement sort d'une petite école, donc on ne sait pas toujours ce qui. Il y a pas tout le monde qui le connaît, mais je trouve que c'était un joueur très intéressant.
En 38 matchs, il a réussi 14 interceptions et 34 passes déviées. Donc en effet, il est très actif malgré sa taille. À quel niveau de la draft tu le vois sélectionné?
Je dirais aussi 4e, 5e tour.
Quatrième, cinquième tour donc pour Amik Robertson en provenance de Louisiana Tech. Tu l'as dit. On va passer au classement, messieurs. Le classement des defensive backs dont on a parlé. Alors, on précise évidemment, on n'a pas cité tous les defensive backs. Je sais qu'on a eu, on en a un peu parlé sur les émissions précédentes. On fait vraiment un panorama des principaux profils. Évidemment, c'est complémentaire avec les fiches que vous retrouverez sur le site. Je vous redonne la liste des joueurs dont on a parlé. Jeffrey Okuda, CJ Anderson, Xavier McInnes, c'était le chapeau 1. Chapeau 2, Christian Fulton, Jeff Gladney, Trevon Diggs, Jalen Johnson, Enigme, Grandel Pitt, Antoine Winfield, des bonnes affaires, Dane Jackson, Amik Robertson. Kevin, je te laisse le premier dégainer le classement.
Alors, Jeff Okuda, CJ Anderson, Xavier McTinney, Christian Fulton, Antoine Winfield, Jeff Gladney, Grandel Pitt, Trevon Diggs, Jalen Johnson, Amik Robertson et Dane Jackson.
Donc, les deux énigmes, Grandel Pitt et Antoine Winfield, pour toi, montent au-dessus de certains joueurs du chapeau 2.
Oui, tout à fait, ouais.
Grégory.
C'est dur. Hein. C'est dur, en vrai. Je dirais Okuda, Anderson, Fulton, Delpit, Winfield, McKinney, Gladney, Johnson. J'espère que j'en oublie pas en cours de route. Et puis après, donc pour finir, ouais, Diggs, Jackson, Robertson.
Donc, McKinney et Diggs, ça tombe un peu pour toi.
Diggs, pour moi, je l'ai dit, hein, pour moi, c'est vraiment un pari. McKinney, c'est vraiment l'excès de polyvalence, pour parler ainsi, dont je ne suis pas fan.
On va terminer, messieurs, avec un mot. Une fois, c'est la coutume, hein, lors de la dernière émission de preview de la draft où on parle des defensive backs, on dit toujours un petit mot des équipes spéciales. On ne leur consacre pas une émission à part entière. La question est la même tous les ans. Est-ce qu'il y a des spécialistes, kicker, punter, long snapper, qui méritent d'être draftés? Si oui, qui? Alors, c'est le moment de se mouiller.
Tu veux y aller, Kevin, d'abord ou...
je vais y aller avec le plus simple, du coup, si tu me proposes. y a Rodrigo Blankenship, je pense, de Georgia, qui a été quand même un kicker très, on va dire, régulier du côté de la Géorgie. Après, il a raté des choses un peu évidentes. Il a raté des choses un peu évidentes, mais sur la régularité, c'était assez solide.
Gros syndrome Roberto Aguayo pour Rodrigo Blankenship. Ouais.
Voilà, ça fout les jetons, du coup. Est-ce qu'il est sélectionné? Il est sélectionné quand?
Après, on ne sait jamais. Hein. Il y a des équipes qui prennent feu sur des kickers. Hein, mais bon, honnêtement, je serais étonné qu'ils partent avant le cinquième. Mais oui, dans le cinquième tour, ça me paraît quelque chose d'assez raisonnable. Ouais.
Mais alors, attends, s'il a craqué des fois, ce qui fait qu'il sera sélectionné, c'est quoi? C'est qu'il a une jambe de feu
Ah non, mais il est super précis. Mais tu veux dire quoi par une jambe de feu?
Je sais pas, j'entends une allusion à Roberto Aguayo. Donc, s'il craque déjà mentalement, c'est parce qu'il peut frapper de 70 yards qu'on le sélectionne à la draft ou...
Ah non, mais comme l'a dit Kevin, c'est qu'il est très très précis. Après, on a vu que sur certains moments chauds, forcément, le principal exemple, c'est la défaite de Georgia contre South Carolina, l'upset qui a coûté quand même assez cher aux Bulldogs sur la fin de la saison. Voilà, c'est un match que les Bulldogs, même sans être bons offensivement, auraient dû gagner. Et c'est un match qu'ils ont perdu en prolongation, notamment du fait du coup de pied raté de Blankenship. Après, oui, il y a eu d'autres coups de pied. Il me semble que ça va être contre LSU. Enfin, il y a d'autres matchs, en effet, où bon, on s'est dit, ouais, c'est sur le principe, c'est super en termes de pourcentage, mais tu te dis que sur des situations mode playoff, coup de pied à la dernière minute, ouais, syndrome Cody Parquet, quoi.
Ouais.
D'accord, bon, c'est pas hyper rassurant. On rappelle son nom, du coup, quand même.
Rodrigo Blankenship.
Rodrigo Blankenship.
Déjà, il a un nom rigolo, quand même.
C'est vrai.
Hot Rod, comme on l'appelle, avec ses grosses lunettes. Vous pouvez pas le louper.
Ah, en plus. Bah, il m'a l'air bien, lui, dis donc. Du coup, est-ce qu'il y a autre chose, autre kicker punter qui peut être sélectionné?
Je t'en citerai peut-être deux. Vraiment, le special teamer, on va dire, qui peut marquer des points, c'est Brandon Mann, le punter de Texas A&M, qui a été extrêmement régulier au cours de toute sa carrière du côté de College Station. Je serais pas étonné qu'une équipe mise un quatrième tour dessus, même si c'est uniquement un punter. Mais en tout cas, voilà, on a vu qu'il a été extrêmement productif, même extrêmement réactif sur des phases un peu d'improvisation. Et puis côté kicker, je regarderai, c'est pas la fac la plus sensationnelle, mais il y a Tyler Bass, notamment le kicker de Georgia Southern, qui s'est bien distingué également du côté de la Géorgie, donc à surveiller. Et puis je vais me lancer sur une bonne affaire au niveau des kickers, tu vois, comme quoi je ne néglige pas cette position. Sam Sloman de Miami, Ohio, qui a été extrêmement propre tout au long de la saison, donc ça reste au niveau de la modeste conférence MAC, mais voilà. Si mentalement il fait l'affaire, il est quand même relativement précis. Donc en NFL, ça peut faire la transition.
Je suis en train de. Du coup, j'ai cherché des photos de Rodrigo Blankenship que je découvre. En effet, c'est vrai que je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vu un joueur avec des lunettes comme ça sous le casque.
Alors, ça ne me vient pas non plus, mais il a dû y en avoir, je pense. Mais ouais, c'est assez atypique.
Ouais, c'est assez atypique. Alors en plus, pour un kicker, et il y a des photos où on a vraiment l'impression qu'il a des culs de bouteille en plus, quoi. Donc
est-ce que le jeu pour les équipes adverses ce sera de voler les lunettes de Rodrigo Blankenship?
Bah ouais, c'est marrant. En tout cas, ouais, c'est original. Hein. Il a l'air très très grand d'ailleurs. C'est marrant pour un kicker aussi. Il a l'air immense. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, pour ces épisodes complets de preview de la draft. On rappelle maintenant qu'on a un très très gros programme et notamment une mock draft, en live mercredi. On est bon sur 18h. Alors, hein, si je dis pas de bêtises.
Pour moi, c'est bon.
A priori, donc mercredi à 18h en live sur YouTube, ce sera la mock draft en direct avec une partie de l'équipe draft de TDA. On se retrouvera ensuite pour le direct des 10 premiers tours, des 10 premiers choix, pardon, pas des 10 premiers tours, des 10 premiers choix de la draft.
Moi, je suis chaud pour les 10 premiers tours, sache-le. Hein. Surtout qu'apparemment, on veut prolonger les tours, donc moi, je suis preneur. Hein.
Dans la nuit de jeudi à vendredi, en tout cas, on retrouvera tout ça. Voilà, très gros programme. Peut-être un live draft day si on arrive à le caler, mais on n'est pas encore sûr. On en a parlé dans l'émission de mercredi soir dernier. On va voir. Faut qu'on annonce tout ça. Merci encore, Kevin Zarmaten. Merci encore, Grégory Richard. Non, c'est comme bien. Ça que se termine l'épisode numéro 352 du podcast Touchdown Actu. On vous remercie. Si vous nous soutenez sur Tipeee, n'hésitez pas à rejoindre ceux qui le font. Pour nous suivre, @TDActu sur Twitter, @TDActu sur Facebook, @Touchdown Actu sur Instagram, @YellowRadiosa, @KevinZermaten et @AlainMattei pour les comptes perso sur Twitter. Toute l'actu de la NFL, c'est sur TDActu.com. Je voyais Kevin lever la main. T'avais un truc à rajouter, non?
Oh non, c'était 355, je crois.
Oui, j'ai dit combien?
352, il me semble.
Oh, j'arrête pas de me perdre. Je fais des erreurs dans tous les enregistrements en ce moment. Il va falloir qu'on arrête de dire les chiffres parce que là, c'est trop pour mon cerveau. Merci beaucoup, Kevin, pour la correction. C'était bien le 355. Merci à tous. On se retrouve très bientôt pour plein de choses liées à la NFL et la draft. Très, très bonne fin de journée à vous. Ciao, ciao.
Des jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Fishbowl pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin, on compte les points et on finit en requin.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.